Chapitre 52. Le journal de Saône-et-Loire, 25 octobre 2010. Mystère à Guignon. Qui repose au cimetière? Les funérailles de Colette Septembre ont eu lieu à Guignon le 13 août 2007, en présence de nombreux amis et membres du football club dont elle était une fervente supportrice. Sœur du célèbre pianiste Jean Septembre et tante d'Agnès Duguin, la non moins célèbre réalisatrice, Colette Septembre était elle aussi très connue dans la cité forgeronne pour avoir officié dans une cordonnerie, rue Pasteur, de 1960 à 2007. Nul n'a oublié la gentillesse, la discrétion et le professionnalisme de cette charmante cordonnière. Pourtant, cette femme en apparence sans histoire emporte avec elle un lourd secret. Mais l'a-t-elle emporté en 2007 ou il y a 2 jours ? Car le corps sans vie d'une femme retrouvée par la gendarmerie mardi matin dans le quartier bas de la ville pourrait être celui de Colette Septembre. Elle se serait éteinte dans son sommeil la nuit du 21 au 22 octobre. La gendarmerie travaille sur l'identification du corps. S'il est avéré qu'il s'agit bien de Madame Septembre, une exhumation devrait être ordonnée prochainement afin d'identifier la dépouille qui repose au cimetière sous son nom depuis 3 ans. Mais dans ce cas, pourquoi Colette Septembre aurait-elle vécu dans l'anonymat depuis 2007 sans jamais avoir redonné signe de vie à ses proches? Le journal vous informera des progrès de l'enquête. Nathalie Grandjean. 31 octobre 2010.
Il avait lu et relu le papier, 10 fois, peut-être plus. Vérifié la date de parution et observé la photo sous l'article. Elle datait de 2003. Les hommes posant les uns à côté des autres dans leur maillot. Et puis cette femme, en bout de ligne, près d'eux, dans un pantalon et un pull noir, les cheveux ramenés en arrière. Le contraire d'elle, toujours enveloppée de couleurs, le regard frondeur, les cheveux en cascade. De mémoire, elle ne les attachait pas. Pourtant ce visage semblait être le sien. Mais était-ce elle, si bizarrement accoutrée? Elle, une cordonnière? Non. Une supportrice? Impossible. Et puis elle n'avait pas passé sa vie entière dans ce trou. Morte, sa fille? Impossible. Il l'aurait senti. Disparue, oui. Planquée, certainement. Morte. C'est en enveloppant des bouteilles de Bourgogne dans du papier journal qu'il était tombé sur l'article. Lui, les journaux, à part Paris Turf, il ne les lisait pas. Il avait toujours peur de tomber sur sa tronche. Il avait gueulé de devoir faire une connerie pareille. À quoi ça pouvait bien servir d'emballer des bouteilles? À les protéger, lui avait rétorqué Mathilde. En quoi du papier journal protégerait une bouteille? C'était comme mettre une cautère sur une jambe de bois. Elle commençait à lui courir sur le haricot, celle-là. Tu mets 3 feuilles par bouteille, et après tu les ranges à la cave. Il n'avait pas insisté, et s'était exécuté. Après tout, elle préparait une daube en sauce qui embaumait, et jamais il n'avait si bien mangé que depuis qu'il la connaissait, lui qui avait crevé de faim. 1, 2, 3 feuilles. 1 trentaine de bouteilles. 1, 2, 3. À la 19e bouteille, une page, la 12. En haut à gauche, c'est d'abord Guignon qui l'avait interpellé, qui avait suspendu son geste. Il connaissait. Il était passé par là il y a longtemps. Il était passé par tellement d'endroits dans sa vie. Mais ce nom, il s'en souvenait. Guignon, Guenon, ça l'avait fait rire. Cimetière, mystère, anonymat. Coïncidence? Il fallait réfléchir. Guignon, Guignon. Aucune image ne lui revenait. La môme était-elle déjà née quand il y était allé? Et cette photographie de la morte, sous l'article? Ce visage le hantait, revenait en boucle dans sa tête. Toute sa vie, il avait fonctionné à l'intuition. Et là, il avait immédiatement senti qu'il devait se rendre là-bas. posait des questions pour comprendre. Rien ne l'en empêchait. Il s'appelait Victor Socha depuis 2004, et il s'appellerait ainsi jusqu'à sa mort. Il avait changé physiquement, vieilli. Le jeune Soudkovski n'existait plus. Les derniers clichés que les flics ou les journaleux au procès avaient fait de lui remontaient à 10 ans. Il avait fini d'emballer les bouteilles en mettant l'article de côté. Il avait passé de longues minutes à scruter le portrait de la morte à côté des joueurs de foot. Il avait trouvé d'autres photos et d'autres articles sur Internet. Des archives du journal de Saône-et-Loire, où on évoquait beaucoup son frère, le pianiste. Son portrait craché. Mais ce n'était pas elle. De ça, il était sûr. En y repensant, non seulement Blanche était née quand il était passé dans ce bled, mais il y était retourné. Avait-elle pu tisser des liens avec quelqu'un? Et lui-même? Avait-il troussé et engrossé une bonne femme? Les souvenirs lui revenaient par touches infimes. Il avait couché avec des femmes qui s'étaient offertes. Il en avait forcé d'autres. Mais les villes se mélangeaient dans son vieil esprit malade. Toutes les places de centre-ville où le chapiteau était monté se ressemblaient. Il fallait comprendre. Alors il s'était décidé. Il avait éteint l'ordinateur et demandé à Mathilde de lui prêter sa voiture. Il devait faire un aller-retour quelque part, c'était urgent. Une journée, deux tout au plus. Elle était en train de mettre le couvert, elle s'était retournée vers lui et avait répondu, sans ciller. « D'accord, mais je viens avec toi. » « Pas question. C'est une affaire personnelle. Ça te regarde pas. » Il avait rencontré Mathilde en débarquant à Valence. Au début, il n'avait pas prêté attention à cette voisine. Puis, il s'était méfié d'elle. Il ne s'expliquait pas comment il avait pu lui taper dans l'œil. Que lui voulait-elle? Trop intrusive, trop ronde, trop blonde à son goût. Une vilaine décoloration sur un moulin à paroles. Finalement, elle s'était tellement bien occupée de lui qu'il avait cédé à ses avances. Chaque jour, une quiche, un morceau de gâteau, du bœuf bourguignon ou un gratin dauphinois dans une assiette posée sur le rebord de sa fenêtre. Au bout de la énième invitation déclinée ou reportée, il avait fini par traverser la rue pour prendre l'apéritif chez elle. Et il s'était attardé. Il n'avait pas eu d'effort à faire pour la séduire. Il n'en avait jamais fait avec personne. Il semblait lui convenir tel qu'il était. Vieux cabot silencieux à la peau ravagée par le travail et la tôle. Mais malgré son âge, il portait beau. Son corps affûté et musclé fonctionnait comme une vieille machine parfaitement huilée et entretenue. C'était sa tête qui déraillait. Il faut dire qu'il avait passé des années à chercher sa femme et sa fille, à en devenir fou. Où étaient ces deux salopes? Blanche avait fait comme sa mère. Elle avait fini par foutre le camp. Un ramassis de vicieuses. La mère et la fille, envolées. Mathilde possédait un ordinateur. Il avait appris à s'en servir en prison. Elle lui avait créé une session Victor, sur laquelle il passait beaucoup de temps à naviguer. Internet, c'était commode pour retrouver quelqu'un, effectuer des recherches. Cet engin fouillait dans tous les coins de France et de Navarre. Il avait notifié deux identités dans ses alertes, Marie-Madeleine Roman et Blanche Soudkovski. Mais cela n'avait rien donné, comme si les deux femmes n'avaient jamais existé, ou alors ce n'étaient pas les bonnes. Il avait trouvé de nombreux homonymes de Marie Roman et aussi quelques articles sur son procès à Annecy. Rien de plus. Il savait qu'il avait cloué son ex-femme sur un fauteuil roulant et qu'elle vivait sous une fausse identité. On le lui avait suffisamment rabâché au tribunal. L'avocat d'Annecy, commis d'office, qui l'avait défendu avant son incarcération, l'avait prévenu. Madame Roman ne sera pas présente au procès et vit sous un nom d'emprunt. Et cette recommandation qui l'avait exaspérée, « Ne vous avisez pas de la chercher, ce serait la pire des idées. » Bien évidemment, il s'y était mis dès sa sortie de prison. Mais rien, aucune trace d'elle. Il avait contacté les hôpitaux, les hospices, les sanatoriums, les maisons médicalisées en tout genre, s'était fait passer pour un proche, parfois pour un médecin, ne s'était jamais découragé. Il avait ratissé la Savoie, la Haute-Savoie et les départements voisins. Il était sûr que cette pute n'avait pas quitté sa région natale. Pourquoi ? Mais pourquoi ne l'avait-il pas buté ? Au moins, il aurait fait de la prison pour quelque chose. Blanche, elle, l'avait trahi, dénoncé. Sa vengeance serait terrible, avec les deux. Quand il y pensait, et il ne cessait d'y penser, il sentait la haine l'envahir, ses muscles se tendre, sa peau brûler, imaginant ce qu'il leur ferait subir, élaborant les scénarios les plus macabres. Et après, il se ficherait en l'air. Il était vieux, il ne vivait plus que pour les retrouver et partir avec elles. 4 ans qu'il fricotait avec Mathilde Pinson, chacun chez soi quand même, jamais chez lui. Toujours chez elle. 3 nuits par semaine, ils traversaient la rue. Ils avaient leurs habitudes. Lui bricolait, naviguait sur l'ordinateur, faisait de la musculation et des exercices d'assouplissement dans le garage, jouait aux courses, lisait son turf. Elle, retraitée de la fonction publique, regardait ses feuilletons, faisait la cuisine et les mots croisés sur les magazines qu'il lui achetait. Il les feuilletait avant de les lui donner. Des fois qu'on aurait parlé des affaires dans ses torchons. Il était complètement parano, comme tous les fugitifs. Même quand Mathilde allait chez le médecin, il l'accompagnait pour s'assurer que dans la salle d'attente, elle ne tomberait pas sur un article compromettant. On n'avait jamais parlé de lui à la télé. Il avait cogné fort. Mais comme ses victimes n'étaient pas mortes, il n'intéressait pas les médias. Après l'affaire de Marseille, où il avait amoché la dernière garce, il avait eu chaud aux fesses. Et puis, la Providence. En 2004, il avait retrouvé cette vieille carne de Socha et s'était réfugié chez lui. Un du voyage, comme lui. Quelques semaines à cohabiter, le temps de comprendre où étaient rangés ses papiers et les codes de son compte bancaire, et il s'était débarrassé de lui. Un jeu d'enfant. C'était la première fois qu'il tuait un congénère de sang-froid. Avant, c'était dans des rixes, et il ne s'en souvenait pas. Pas le choix. L'occasion était trop belle, empoisonnée au monoxyde de carbone. Il avait mis une bonne dose de somnifère dans sa soupe, l'avait traîné dans le garage, avait démarré la voiture, fermé les issues. « Salut vieux frère, rendez-vous en enfer !» Il avait déménagé aussitôt, brûlé la voiture et les plaques d'immatriculation. Personne ne s'était étonné du départ de Socha. C'était un sale con que les voisins ne pouvaient pas saquer. De ceux qui empoisonnent les chats et piègent les renards. Soudkovski avait fait peau neuve en changeant d'identité. Comme il avait été facile de se glisser dans les vêtements d'un autre. Une bénédiction, ce brave Victor. La chance de sa vie. Il touchait même sa pension d'ancien combattant. Lui qui n'avait jamais mis les pieds en Algérie. C'est Mathilde qui remplissait ses papiers, déclaration d'impôts et tout le tintouin. Elle aurait tout fait pour son cher Victor. En apparence, il coulait des jours tranquilles. Sauf qu'il y avait sa fille. Et jamais il ne retrouverait le sommeil avant d'avoir mis la main sur elle. Il savait qu'il y aurait un jour qui ne ressemblerait pas aux autres. Il l'avait toujours su. Morte ou vivante, il la débusquerait. Et voilà que l'occasion se présentait peut-être. Sauf que Mathilde, les mains sur les hanches, le toisait d'un drôle d'air en répétant pour la 3e fois que s'il voulait sa voiture, elle l'accompagnerait. Il ne l'avait jamais touchée, pas même une gifle. Décidément, il y avait un début à tout. Mais c'était les autres qui se comportaient mal, décevaient, trahissaient, pas lui. Tu veux que je te mette une danse? C'est ça que tu cherches? « Si tu me touches, j'appelle les flics et je dis tout. »« Tout quoi ?» avait-il demandé en serrant les mâchoires et les poings. « Que t'as jamais fait l'Algérie et que tu mens comme tu respires. Tu sais ce que c'est un historique ?»« Suffit que je passe derrière toi sur l'ordinateur et je vois où t'as fureté. T'as pas le cul propre, mon pauvre Victor. Enfin, Victor, façon de parler. Si tu pars, je te reverrai jamais. Et ça, je supporterai pas. Alors je viens avec toi, et puis c'est tout. Mathilde avait retiré son tablier et ajouté « À table ! Une daube, ça n'attend pas. Elle a suffisamment mijoté. » Normalement, il l'aurait immédiatement saigné, sans réfléchir, sous la gorge, comme avec les agneaux, pourceau, la proie. Il l'aurait vidé sans le moindre scrupule. Il n'avait jamais eu de temps pour les scrupules. Il fallait sauver sa peau. Depuis sa naissance, il était comme un chien de meute, celui qui mord le plus fort pour s'en sortir. Mais il s'était assis. Il avait faim. Et surtout, une question l'obsédait. Et il aurait une réponse avant de partir. « Où t'as trouvé les journaux qu'on servit à emballer les bouteilles ? C'est pas ceux que j'achète d'habitude ?» Mathilde avait souri, dévoilé ses dents jaunes qu'elle brossait chaque jour en vain avec de l'émail diamant. Son double menton tremblait, ses doigts boudinés avaient rosi. Un petit cochon dans une robe à fleurs. La mère Ponce me les a ramenés de Cluny, hier, avec des gougères et des caisses pour ranger mes bouteilles. La mère Ponce? Tu sais bien, la brocanteuse. Bien sûr, la boutique de ramassis de merde au coin de la rue. Un ramassis vendu une fortune et exposé dans une vitrine parce que les objets avaient tous plus de 50 ans. Quand les gens de plus de 40 ans étaient à mettre au rebut, les objets, eux, prenaient de la valeur en vieillissant. En avalant sa daube, il s'était dit qu'il pourrait mettre le corps au frais pendant 48 heures, le temps de faire l'aller-retour. La cave ferait l'affaire. Ou le congélateur. Après, il aviserait. Il n'avait jamais éprouvé de pitié pour personne. Il avait perdu sa mère à l'âge de 4 ans. On la lui avait arrachée. Ne lui restait que le souvenir de son odeur de lait, de sa chaleur, de sa douceur. Son visage et son sourire penchés sur lui. Et soudain sa mort, comme une malédiction. Un grand trou noir, des gens autour de lui qui pleurent. Pour lui, une chute qui n'en finit pas. Un fluide glacé dans les veines. Le sentiment d'avoir mal en permanence. Le long sommeil cotonneux de sa petite enfance. Un père fou allié, la vie sous le chapiteau, le dressage et le fouet depuis qu'il avait ouvert les yeux sur le monde. Une sacrée merde, ce monde. Après la mort de sa mère, il n'avait jamais connu la douceur d'une caresse. Il n'aurait pas supporté si on avait effleuré doucement sa peau. Même Mathilde n'avait pas le droit de le toucher. Il la troussait ou se faisait sucer, puis il s'endormait sur une oreille. Jamais de sommeil profond. Le sommeil profond, c'était pour les nantis, pas pour lui. Pour lui, la chair humaine était pourriture et peur, comme celle des animaux et des handicapés qu'il plaçait sur le même échelon, juste bonne à exploiter ou à dévorer. Rien ni personne ne l'empêcherait de retrouver sa fille. Peut-être que c'était une fausse piste, cette histoire de cimetière et de bonne femme morte deux fois. Une bonne femme qui avait la même tête que Blanche. Mais il fallait vérifier. Tout de suite. Après le repas.